Merci pour ces donc trois brillantes communications. Peut-être avant de passer la parole publique, je voudrais poser une question à Paulina. Est-ce que vous avez remarqué dans l'agencement sémiotique du geste un rapport parfois, vous avez bien parlé de la façon dont le geste soulignait le texte, mais est-ce que vous avez noté parfois un rapport d'opposition entre le geste et la parole ? Moi, je me rappelle d'un spectacle d'Oxmo Puccino où il scandait un texte de rodomontade, de bravache, et derrière, il faisait des gestes de peur, voilà. Et j'avais été très frappé de ce contrepoint et même de cette opposition du geste et du texte. Est-ce que vous les avez remarqués, vous, parfois ?
Oui, parfois j'ai remarqué que un geste est accompagné de toute une série de mots qui parfois sont justement en relation antinomique. Donc par exemple, quand les rapports montrent seul le signe de la monnaie, ils disent parfois riche ou gagner de l'argent, mais parfois ils disent aussi pauvre. Donc ils disent à mon avis tout le contraire de ce qu'ils expriment par la main. Ou bien quand il y avait les gestes qui montraient soi-même, c'est-à-dire les indices, et qu'il montrait ses oreilles pour dire « écoutez », il y a justement Kenny Arcana qui dit « écoutez », mais elle montre sa bouche. Donc vraiment, c'est souvent contradictoire. D'accord.
Et puis, j'aurais une question aussi pour Maxence Déon. Sur l'opposition entre rap intertextuel et sample non intertextuel, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a quand même certains rappeurs qui sont plus intertextuels que d'autres ? Je pense par exemple à Guru, où là il y a une grande intertextualité avec tout l'univers du jazz.
Oui, mais je pense qu'aux États-Unis, l'intertextualité se vérifie dans le fait qu'ils samplent quasi systématiquement dans le fond musical afro-américain. Le lignage est bien, bien plus évident qu'en France. Donc là, je m'étais concentré sur des productions françaises, mais les Français vont sampler aussi le fond musical afro-américain, donc il n'y a pas les mêmes liens. Le lien d'intertextualité va être avec le rap américain plus qu'avec un fond culturel. Il existe quelques cas particuliers, en contre-exemple, comme Bisson Abisso ou... 113, il y avait aussi Tonton du Bled, où là il y a vraiment un lien très fort entre le choix du sample et le texte évoqué, mais c'est des cas particuliers.
Ouais, oui, peut-être. Et puis il y a, je pensais alors pour le rap marseillais, il y a une grande intertextualité dans Le Soldat, où Akhenaton décrit un épisode qu'on suppose être de la première guerre du Golfe. Dans lequel il raconte qu'un soldat, on lui a dit d'aller détruire un nid terroriste et il s'aperçoit qu'il a participé au massacre de civils. Et Akhenaton utilise deux samples. D'un côté, du côté américain, il utilise Mingus. Et du côté arabe, il utilise un sample, je crois avoir reconnu Kalsoum. Et il semblerait que le morceau de Kalsoum, c'est Al Altair, qui veut dire l'Erwin. Donc là, il y a quand même une très grande interconnexion sémantique entre le sample et le texte.
Oui, mais j'avais pas du tout l'intention de dire que c'était quelque chose de moindre par rapport au côté esthétique, mais je voulais mettre en avant le côté esthétique, oui, bien sûr.
Ce qui est d'ailleurs moins fait, donc c'est d'autant plus précieux. Voilà. Peut-être que la salle a des questions à poser.
Question pour Maxence Déon. Parce que vous avez dû du coup écouter un paquet de samples et que peut-être que vous avez remarqué quelque chose de cet ordre-là. J'ai toujours eu l'impression que le sample, c'était aussi une manière d'inverser un rapport de domination dans la culture, un rapport d'appropriation des cultures noires, notamment. Je voudrais savoir si vous avez entendu des modes selon lesquels certains producteurs peut-être rendaient ça évident.
J'ai pas du tout réfléchi à ce point-là ou travaillé sous cette optique-là, donc je préfère pas dire de bêtises. Oui, il doit y en avoir, mais comme ce qu'on disait tout à l'heure, dans ce rapport de domination, ça a peut-être plutôt marché chez les rappeurs américains, ou se voir de façon plus évidente, peut-être. Pour le rap français, je ne saurais pas dire. Désolé.
Bonjour, une question pour Maxence aussi. Je ne vous ai pas entendu parler de samples de voix d'a cappella qui sont aussi à la frontière entre le stylistique et le sens. Et bon, voilà, c'est pour ça que je ne vous ai pas entendu vraiment parler.
Oui, non, parce que je n'en ai pas du tout parlé. Mais effectivement, quand un sample va utiliser des voix dont on distingue un texte, là, il va y avoir des choses plus évidentes à dire sur l'intertextualité et le renvoi à ce texte original. Ça va plutôt être dans les scratchs, je crois qu'on va avoir ça. Et en l'occurrence, ça va souvent être des morceaux de rap qui vont être scratchés. Donc là, évidemment, on fait référence. En rendant hommage ou en cherchant à ridiculiser le rappeur qu'on est en train de scratcher. Mais dans les samples, ça se retrouve, mais moins que dans le scratch, je crois.
Et aussi, il y a une dimension technique par rapport au fait de pitcher la voix, la dépitcher, rentrer dans les temps, caler, résultat, le phrasé sur les charlets, le kick, le snare, etc. Et c'est vrai que c'est à la frontière entre l'esthétique et le sémantique. Beaucoup de samples donnent le titre au morceau, que ce soit aux États-Unis ou en France. En faisant une référence, un hommage explicite, des fois, à ce niveau-là.
Oui, j'avais l'intention de faire écouter justement un exemple, peut-être que je peux me permettre le fait de le faire passer. Alors, on n'est plus dans le hip-hop, mais dans un genre musical qui se réclame du hip-hop et de la house, un genre de Chicago, on va reconnaître un sample de Marvin Gaye qui est uniquement un a cappella vocal, et tout le jeu de la production, de la composition, va être de faire entendre tous les détails de ce sample par tous ces jeux de transposition, de placement rythmique, et c'est un exemple parfait à la remarque que vous venez de faire.
Ah, pardon, oui. Est-ce qu'on peut rebrancher le sampleur ?
Voilà, et tout le morceau comme ça n'est qu'un jeu sur ce sample facilement reconnaissable de Sexual Healing de Marvin Gaye. Et je sais pas si c'est plus intertextuel ou plus esthétique, c'est évidemment les deux, je pense, pour faire vraiment entendre tous les détails de ce sample et en même temps renvoyer à Marvin Gaye.
Et merci beaucoup et bravo pour la conclusion avec Prince Wally et Midsizer.
Merci.
Oui, bonjour, merci pour vos interventions. Ma question s'adresse à Jean-Marie Jacono. Je suis là. Tout d'abord, vous dire que c'est très intéressant d'analyser ce lien entre l'esthétique et le territoire, parce que c'est quelque chose qu'en tant qu'auditeur, on ressent souvent assez fortement, mais sur lequel il est difficile de mettre des mots. Je vous ai bien écouté et j'ai l'impression que dans l'analyse des liens esthétiques que vous faites entre différents rappeurs et le territoire de Marseille, malgré toutes les ruptures que vous avez bien démontrées entre IAM, etc., Soprano, Kenny Arcana ou la nouvelle génération de rappeurs marseillais, il y a une espèce de constante qui est le fait qu'il y aurait un lien dans cette esthétique, ou plutôt une sorte de discours esthétique qui s'adresse des quartiers populaires au reste de la ville, que ce soit dans les textes, dans les samples, dans le rythme ou dans le perfectionnement de la production, et donc qu'il y aurait une sorte de constante, en tout cas c'est ce que je retiens de votre intervention. Est-ce que cette constante, vous l'avez plus étudiée ou plus remarquée dans ce qu'elle a qu'en dire ? Merci.
Bon, alors, effectivement, il faut que dissiper une ambiguïté sur le rap marseillais. Il ne provient pas systématiquement des quartiers populaires. IAM, par exemple, vient de diverses parties de la ville. Jules, par exemple, Jules, c'est aussi quelqu'un qui ne vient pas d'une cité des quartiers nord, mais d'un quartier qui est au début de la zone est de la ville, Saint-Jean-du-Désert. Donc, on a une grande variété et on est dans la à Marseille dans la situation du rap des États-Unis avec, par exemple, Public Enemy qui venait non pas des ghettos de New York, mais de la, des couches moyennes, hein, par exemple. Donc, ce qui se passe, c'est que la relation envers la relation de tous les groupes est marquée par ce système de différence qui structure toute la ville et en permanence, on est acteur de différence à Marseille. Différence, eh bien, ne serait-ce que par opposition à celui qui est considéré comme l'antithèse du Marseillais, c'est-à-dire, eh bien, je dois le dire ici, le Parisien. Donc, qui est systématisé dans l'affrontement des deux clubs de football, qui est une espèce de rite de passage pour l'identité marseillaise. Bon, alors ça ne marche pas très bien parce que l'OM perd à tous les coups, mais bon, c'est ancré dans cette ville qui souffre de ne pas être une capitale et qui a des problèmes d'identité majeurs. Bon, qui rêve d'être capitale. Alors, elle était capitale de la culture, maintenant elle est capitale du sport. Bon, sauf qu'elle ne verra jamais, par exemple, les Jeux Olympiques. C'est absurde. Bon, elle n'a pas les moyens, les capacités. Et elle est gérée par des personnes qui, eh bien, travaillent surtout pour leurs propres intérêts. Il faut bien dire, pas pour l'ensemble des citoyens. Donc, ce qui se passe, c'est que, voilà, on a une situation qui doit éviter eh bien, de faire tomber dans les caricatures. Les bons rappeurs d'un côté dans les quartiers nord, à Félix Piat, dans la vallée de Luvonne, etc., Herbel, et puis les autres, eh bien, c'est des publics bourgeois. Non, c'est pas ça. Voilà. Mais chacun est l'héritier de cette situation.
J'aurais peut-être une question plus particulière. Est-ce qu'il y a une sorte de va-et-vient entre un rap qui serait plutôt centrifuge, c'est-à-dire et puis un rap qui serait plutôt centripète, c'est-à-dire des mouvements de ramener vers un centre ou au contraire rayonner.
Mais dans quel domaine, Christian ?
Dans le domaine esthétique, dans le domaine.
C'est-à-dire centrifuge, mais par rapport à quoi ? La ville ? Bien sûr, par exemple.
Ramener à la ville, au contraire.
Voilà, et ben, l'évolution, c'est.
Bombie est en bille.
Justement, on est à Marseille dans un rap qui est centrifuge.
Voilà.
Qui n'est pas centripète. Qui n'est plus centripète. Au départ, il était vraiment centré sur le noyau. Et ça évolue, c'est en spirale. Voilà, je comprends mieux la question. Non, voilà, c'est acquis. Mais malgré tout. Mon hypothèse, ma thèse même, c'est que le système de différence, le système d'opposition, le contraste structure profondément les mentalités et la fabrication de la musique. Et c'est lié au territoire dans tous les sens du terme.
Oui, d'accord, merci. Ma question est pour Maxence Déon. Dans le rapport que NTM a à l'artiste qu'ils ont échantillonné. Vous parliez d'une espèce de. C'est comme s'ils ne respectaient pas, presque. C'est-à-dire, ils ne savaient peut-être pas trop c'était qui, ils en faisaient ce qu'ils en voulaient. Puis, je trouve ça. Ben, il me semble quelqu'un qui échantillonne un autre artiste, c'est sa matière première, donc nécessairement, il y a un respect, un intérêt, une valorisation d'avoir choisi cet artiste-là, non?
Il y a beaucoup de cas où ça va se vérifier. Dans ce cas-là, Richard Kleiderman, c'est quand même le parangon du kitsch. On est vraiment ça n'a rien à voir avec NTM. Et la façon dont ils ont vraiment déconstruit le sample et décidé de n'en garder que très peu, de complètement modifier la sonorité, au premier abord, ce n'est pas forcément évident de se dire « Ah oui, on avait Richard Kleiderman dans ce morceau-là ». Donc s'il y a un lien d'hommage ou de respect, il est très caché. Et d'ailleurs, NTM disait, l'a répété dans plein de morceaux, la variété nous prend la tête, la variété on déteste. Richard Kleiderman représente ce que NTM n'aime pas dans la culture française.
Mais dire la variété, on s'en fout, c'est le discours. Mais ce qu'ils sont vraiment en train de faire, c'est quand même en train de faire une chanson avec ça. C'est leur matière. C'est comme un peintre qui n'aime pas la couleur mauve, mais il est en train de peindre en mauve. C'est quand même...
C'est leur matière sonore. Et ils travaillent à partir de cette matière sonore. Ils jouent avec. C'est un jeu esthétique. Ça peut se discuter très longtemps, mais j'y vois vraiment, moi, pas de lien d'hommage. Ou éventuellement, regarder ce que nous, Kleiderman, ce qu'on en fait. On en fait autre chose qui va sonner hardcore, qui va sonner rap, qui va sonner cité. Ça peut... c'est des débats qui dépassent le propos que j'avais à la base. Mais pour moi, il y a vraiment, dans cet exemple-là, principalement un jeu esthétique, un jeu avec le son, plus qu'un rapport avec là d'où vient le son.
On me signale en régie qu'on ne peut plus prendre qu'une seule question.
Merci. Je voulais d'abord vous remercier pour, bien sûr, l'intérêt de vos différentes présentations. Une toute petite question de méthode pour Paulina. Je suis très curieux d'en apprendre plus sur les critères que vous avez utilisés pour faire votre échantillon.
Alors, c'était des chansons qui datent à partir de l'année 2000 jusqu'à 2016. Et puis, il fallait que la chanson ait un clip d'abord. Et après, il y a eu beaucoup de clips où on ne voit pas du tout les mains. Donc, ça, c'était les critères d'éligibilité. En fait. Non.
Oui, je m'excuse de revenir sur ça. Je crois que j'ai plutôt suivi ce que vous avez énoncé dès le départ. Mais je vais vous dire, vous avez travaillé avec quelqu'un d'autre, n'est-ce pas?
Oui.
Celle qui n'a pas pu venir. Mais à part le fait de voir les mains sur le clip et le découpage temporel, en fait, sur quoi est-ce que vous avez pris en compte, par exemple, la génération des rappeurs, le sous-genre, ou bien, je ne sais pas moi, les types de thèmes qui sont évoqués? Ou bien ce sont les seuls critères sur lesquels vous vous êtes appuyé?
Ah oui, tout à fait, que ces trois critères-là. Okay.
Mmh. D'accord.
J'espère avoir répondu.
Eh bien, merci à tous, merci aux intervenants et merci au public.